Écoutez la planète chanter. Khouya Salah, Khouya Salah, turqot chi.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adrabe la cosa, ding-e-dong.
Non,
ding-e-dong.
Écoutez la planète chanter.
Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Des semaines, des mois même de discussions, des milliers de réunions et des cahiers de doléances un peu partout en France, des centaines de milliers de contributions et enfin ce matin, la synthèse du grand débat national lancé en fin d'année dernière dans le sillage de la crise des Gilets jaunes. Et c'est cela, c'est en attendant que les propositions soient faites par l'exécutif pour répondre à ce qui a été synthétisé. Ce que l'on sait déjà, c'est que le gouvernement retient surtout une forte demande de baisse des impôts et qu'il veut accélérer et qu'il promet des décisions fortes. Le président doit annoncer des choix à une date encore à définir dans quelques jours. Le grand débat, tout ça, pourquoi ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités seront avec nous en studio. Pierre Madec, bonjour. Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Bonjour.
Et Yves Saint-Omer est en train de nous rejoindre. Il est professeur de sciences politiques à l'université Paris 8. D'abord, Pierre Madec, peut-être quelques mots sur la méthode. Vous êtes économiste, donc un petit peu statisticien. C'est pas facile d'analyser et de synthétiser autant de contributions.
Alors, c'est en effet le travail de synthétiser tout ça doit pas être facile. Ce qui est intéressant et ce qui a été rappelé ce matin, c'est que on n'est pas sur un sondage, c'est-à-dire on n'interroge pas l'ensemble des Français de manière représentative. On est sur une consultation, ce qui du coup peut générer des résultats un peu différents entre ce que peuvent dire les Français sur dans un sondage et les résultats qu'on a pu avoir ce matin. C'est notamment le cas sur l'ISF, c'est-à-dire que quand on interroge les gens, il y a une grande majorité des Français qui ont l'air de déclarer on est pour un rétablissement de l'ISF. Ce matin, je crois que dans les résultats qui sont sortis, on était aux alentours de 17% qui déclaraient vouloir un rétablissement de l'ISF.
Mais est-ce que il n'y a pas un risque justement de simplification, de distorsion par rapport à des éléments représentatifs de la population?
Ce qui est intéressant, c'est de regarder la chronologie des faits, et en fait on s'aperçoit que compte tenu des termes du débat tels qu'ils ont été posés au début, les résultats qui ont été présentés ce matin sont pas très étonnants, dans le sens où le constat de départ était il y a trop d'impôts, il y a trop de dépenses publiques. Comment on fait pour baisser les impôts et la dépense publique? Bon, sans trop de surprise, ce matin, on nous a annoncé qu'il fallait baisser les impôts et la dépense publique, et on nous a expliqué un peu comment les Français, en tout cas ceux qui ont été consultés, comment ils voudraient qu'on baisse les impôts et la dépense publique.
Merci, Pierre Madec. Yves Saint-Omer nous rejoint à l'instant. Asseyez-vous, Yves Saint-Omer, on a eu un petit problème de transport. Je disais donc, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 8. Nous parlions d'abord, avant de parler du fond, de ce qui a été donné ce matin pour cette synthèse des contributions au grand débat, nous parlions de la méthode. Vous qui êtes professeur de sciences politiques, est-ce que il n'y a pas un risque, et nous en parlions, de distorsion ou de simplification par rapport à peut-être des sondages où il y a des échantillons représentatifs de la population qui sont interrogés?
Il est clair que si on fait des participants au grand débat en ligne de ceux qui ont fait une contribution, on a un sondage de mauvaise qualité. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'échantillon n'est pas représentatif. Et si c'était simplement pour demander leur avis aux Français de cette manière-là, alors un sondage classique était plus efficace. On aurait pu, par contre, penser qu'il y avait une série de débats locaux, puis qu'on montait en généralité, qu'on faisait en quelque sorte une architecture du débat. Après des contributions individuelles, on aurait pu passer à des débats collectifs, notamment au niveau régional, puis au niveau national, et sur cette architecture-là, demander ensuite aux Françaises et aux Français de trancher. Mais la méthode n'a pas été celle-ci. L'idée était d'avoir des choses parallèles, éclatées, pourrait-on dire, qui reviennent à mettre, du coup, le gouvernement et le président au centre pour faire la synthèse, pour assurer l'intérêt général, au moment même, et c'est là le problème, où les partis politiques, le gouvernement, le président, ont été vivement contestés dans leur capacité à incarner cet intérêt général. Donc, il y a une ambiguïté dans la méthode qui est, je crois, problématique aujourd'hui.
1,5 million de contributions, presque 2 millions. Le corps électoral en France, c'est 48 millions de personnes, même plus que ça, je crois, Yves Saint-Omer. Donc, on est vraiment absolument éloigné d'un échantillon représentatif, parce que les gens qui se sont présentés au grand débat, il y avait peu de jeunes, par exemple. C'est problématique. On va suivre des recommandations de gens qui se sont impliqués et les autres seront complètement oubliés.
Mais c'est le risque. Il faut parler sous réserve. Les enquêtes statistiques, sociologiques sur les participants sont encore en partie au moins en cours, mais on a déjà un peu un portrait robot, notamment des personnes qui ont participé aux débats organisés locaux. Oui. Ce sont des personnes plus âgées que la moyenne, plus de retraités notamment. Ce sont des personnes qui vivent correctement ou très correctement. C'est donc un autre peuple que le peuple qui s'était mobilisé avec les gilets jaunes sur les ronds-points. Et si on pense que à travers ça, on a une image globale, alors cela pose problème. Par contre, alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux quantitativement, les participants aux conférences régionales, parce qu'ils avaient été sélectionnés par tirage au sort, d'une manière plus ou moins adéquate, mais en tout cas par tirage au sort, étaient plus représentatifs de la population française.
Alors sur le fond maintenant, Pierre Madec, vous avez commencé à en parler, on a clairement l'expression d'un ras-le-bol fiscal, hein, qui était ça. En revanche, c'était vraiment la même chose avec le mouvement des gilets jaunes. Est-ce que c'est si surprenant que ça?
Non, une fois de plus, compte tenu de comment étaient posées les questions au début du débat, la réponse qui pouvait en sortir était forcément il y a trop d'impôts, il y a trop de dépenses publiques. C'est dommage. C'est-à-dire que ça aurait pu être l'occasion de demander aux Français quelle doit être la place de l'État dans la société, comment mieux utiliser les impôts, pas forcément en payer moins, mais comment mieux les utiliser, comment mieux utiliser la dépense publique. On leur a pas tellement demandé ça, on leur a demandé où est-ce qu'il faut baisser les impôts et la dépense publique. Et donc du coup, les Français ont essayé de répondre.
La question était formulée comme ça, hein, c'était quelle dépense publique, quelle partie de la dépense publique faut-il baisser?
Le grand débat, il s'inscrivait quand même dans une logique présidentielle et la logique du gouvernement qui était de faire baisser les impôts et faire baisser la dépense publique. Après, il y a quand même la question des marges de manœuvre. C'est-à-dire que là, on a les résultats. Bon, il faut attendre que tous les résultats soient compilés. Mais il y a déjà un certain nombre d'annonces qui ont été faites ces dernières semaines, notamment par Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, en disant la taxe d'habitation, on va la supprimer pour tout le monde. Ça coûte 7-8 milliards d'euros. La taxe carbone, on la remettra pas en place. Ça veut dire 3 milliards d'euros en moins chaque année jusqu'à la fin du quinquennat. Et donc, de fait, on se lie un peu les mains dans le sens où les marges de manœuvre budgétaires vont être très réduites pour mettre en place de nouvelles baisses d'impôts ou alors il va falloir baisser drastiquement la dépense publique. Et dans ce cas, il va falloir décider où.
Yves Saint-Omer, c'est clairement une façon de préparer le terrain politiquement à une baisse de la dépense publique. Enfin, quelque chose qui a déjà été décidé, quoi, en fait.
Franchement,
quand
on entendait le Premier ministre aujourd'hui, on se disait qu'il n'avait pas besoin d'organiser un grand débat pour proposer la baisse drastique des impôts qu'il avait déjà à son programme,
en quelque sorte. En principe, tout le monde applaudit dans ces cas-là.
Oui, sauf qu'on peut penser que l'impôt est trop élevé pour des raisons très différentes. Mmh. On peut penser que dans l'absolu, on n'arrive pas à le payer. On peut penser qu'on en paye trop par rapport à d'autres, que c'est donc un impôt injuste fiscalement parce que d'autres ne sont pas imposés au niveau où ils devraient l'être. On peut penser qu'on paye trop d'impôts par rapport à la qualité des prestations de services publics que l'on reçoit. Et en fonction au moins de ces trois logiques-là, les réponses ne sont pas les mêmes.
Mmh. Pierre Madec, les participants ont apparemment assez largement évoqué l'impôt sur le revenu pour tous. C'est quelque chose qui revient notamment dans beaucoup de campagnes électorales. Est-ce que c'est faisable? Techniquement, oui, mais est-ce que ça coûte? Est-ce que voilà.
Alors, c'est tellement faisable que en fait c'est déjà fait. Ça s'appelle la CSG. Tout le monde paye de la CSG. Ce débat est un faux débat en réalité, et il est assez symptomatique du manque de pédagogie qu'il y a pu avoir au cours du grand débat national. C'est-à-dire, on a expliqué aux Français, vous payez trop d'impôts, on dépense trop d'argent public pour tout un tas de raisons, mais on n'a jamais fait la pédagogie nécessaire d'expliquer aux gens, par exemple, qui paye quoi, quel impôt sert à financer quoi. On a fait un petit tableau sur 1000 euros de dépenses publiques, mais on s'est jamais comparé à nos voisins, par exemple. On n'a pas fait non plus le même exercice sur les impôts. Le débat sur la TVA, par exemple, il est intéressant. Tout le monde paye de la TVA, bon, quel que soit votre niveau de revenu. Il y a des revendications qui disent il faut mettre la TVA à zéro, la TVA est trop élevée, etc., etc. Il faut savoir que la TVA est certes un impôt injuste, mais que proportionnellement au nombre d'habitants qu'on a, tout ça, on paye moins de TVA qu'ailleurs. Quand on se compare avec d'autres pays européens. Sur la dépense publique, la grande majorité, 57% de la dépense publique, c'est des dépenses de protection sociale, qui sont financées par des cotisations, tout ça. Donc, est-ce que les Français sont prêts à renoncer à un pan de leur protection sociale? Ça va très vite de baisser la dépense publique. On sort du système de retraite actuel, on fait un système par capitalisation privée, et puis on réduit massivement la dépense publique. Mais est-ce que les Français le veulent vraiment? Toutes ces questions-là, on les a pas vraiment posées. On essaye de faire des ajustements un peu à la marge, mais ça aurait été intéressant d'avoir la réponse des Français sur ces sujets-là.
Yves Saint-Omer, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des décisions et des lendemains difficiles. Une fois qu'on a dit on va baisser le niveau des impôts et baisser la dépense publique, il faut savoir où.
Évidemment, évidemment. Et les frustrations qui ont été exprimées de façon virulente par le mouvement des Gilets jaunes avant le grand débat, et qui étaient très largement partagées par une majorité de la population française, en tout cas d'après les sondages qui étaient faits sur le moment, montraient que c'était aussi une demande de services publics de proximité, d'aide, de protection sociale, et un refus d'un modèle où les différences sociales exploseraient et où le gouffre entre les plus aisés et les autres s'accroîtrait encore plus. Donc, on est dans une situation qui est une situation bizarre, et effectivement, si c'est simplement pour appliquer plus rapidement ou plus radicalement le programme qui avait déjà été élaboré, et puis donner disons quelques miettes, on reviendrait sur la décision des 80 km/h, alors on peut penser que la crise ne sera pas prête de se résorber et que les lendemains vont être difficiles.
Dans cette synthèse, Pierre Madec, il apparaît que parmi les postes sur lesquels les personnes qui ont participé, hein, donc on le répète, pas forcément représentatif, parmi les postes sur lesquels les personnes qui ont participé envisagent des économies, il y a au premier rang la défense nationale, et en fait c'est pas la direction qui est prise, puisque l'objectif c'est d'arriver à 2% de dépenses pour la défense, 2% du PIB. Ce genre de choses qui ne sont pas dites, c'est là que ça va être difficile.
Ben, les deux grands postes qui sont pointés par en effet les Français qui ont contribué au grand débat, c'est la défense nationale et la politique du logement. La défense nationale, c'est 3% de la dépense publique. La politique du logement, c'est 2% de la dépense publique, en sachant que on a déjà baissé de 15% l'argent public qui allait vers la politique du logement. Donc c'est bien là le point un peu problématique, c'est ce manque de pédagogie. C'est-à-dire que on vous laisse déclarer sur un petit bout de papier ce que vous baisseriez comme dépense publique, sans jamais vous expliquer que bah, sur la politique du logement, on a déjà baissé de 15%. Compte tenu des chiffres de la construction, de la nécessité de construire du logement social, de solvabiliser les gens au travers des appels, ça va être compliqué d'aller plus loin. Et la défense, en effet, c'est pas le chemin qui est pris, puisqu'il y a une volonté de renforcer le budget de la défense, mais est-ce que les Français ont vraiment envie qu'on baisse le budget alloué à la défense nationale? C'est pas sûr non plus. Donc, il y a un certain nombre de contradictions dans le grand débat. Ça a été pointé, en effet, justement, sur la nécessité d'avoir plus de services publics, on voit bien qu'il y a un consensus quand même pour dire les fermetures d'écoles, de maternités à l'échelon local, ça pose problème. Mais sauf que quand on baisse la dépense publique, c'est ça qu'on baisse. C'est-à-dire on baisse l'implantation de l'État sur le territoire.
Le millefeuille administratif et les compétences des collectivités locales, il y a des propositions innovantes là-dessus, vous en avez relevé, Yves Saint-Omer. Est-ce qu'on a avancé vers une certaine forme de clarification là-dessus, sur le service public de proximité, et qui s'en occupe, qui fait quoi?
Il est certain que c'est un des problèmes importants dans notre pays, à la fois parce que ça génère des surcoûts et que c'est pas fonctionnel, et aussi parce que, du point de vue des citoyens, c'est illisible. Comment savoir ce qui dépend de la commune, de l'intercommunalité, du département, de la région, de l'État, de l'Union européenne? C'est impossible. Et simplement, là encore, on a un problème, c'est-à-dire que l'échelon que les citoyens voient le plus, c'est l'échelon communal, celui qui est immédiatement perceptibles traditionnellement. Mais par exemple, il est évident qu'on va d'abord penser au maire parce qu'il est élu et pas au président ou à la présidente de l'intercommunalité parce que cette personne-là ne l'est pas, alors qu'aujourd'hui, les compétences sont de plus en plus à l'échelle intercommunale. Donc là encore, ce problème de pédagogie que vous évoquiez tout à l'heure me semble valable pour d'autres sujets que celui de l'impôt. Sur le fond, le grand débat, pas complètement, mais très largement, a été une succession de monologues, n'a pas été un véritable débat, une véritable délibération permettant de progresser à partir des contributions individuelles. La chose a été un petit peu différente, je crois, dans une série d'assemblées citoyennes régionales qui étaient tirées au sort, qui avaient plus de temps de délibération, mais le grand débat en lui-même ne peut pas être caractérisé de ce point de vue-là. Et du coup, bien, ces biens informatifs pèsent énormément.
Pierre Madec, vous voulez réagir là-dessus ?
Non, ce qui est intéressant, c'est on pointait la contradiction qu'il pouvait y avoir dans les propositions. La contradiction, elle va jusqu'au plus haut sommet de l'État, si je puis dire. C'est-à-dire que ce matin, Édouard Philippe nous remet les conclusions du grand débat en disant « il faut baisser la dépense publique ». Cet après-midi, il y a des déclarations très volontaristes en disant « l'État est le dernier rempart contre l'exclusion, l'isolement de certains territoires, et donc il faut développer le service public de proximité ». Ces deux déclarations, par nature, sont contradictoires. Donc il va falloir arbitrer, est-ce qu'on veut plus de services publics ou moins de services publics ?
Sur le plan politique, sur le plan de la représentation et de l'organisation de l'État, il y a manifestement, Yves Saint-Omer, une demande d'écoute renforcée qui est apparue. Hein. Comment est-ce qu'on peut la concrétiser ? Il faut des réformes institutionnelles, il faut...
Alors, on résout jamais tout avec des réformes institutionnelles, et aucune réforme institutionnelle isolément n'est un remède magique. Ce qui, par contre, sort clairement, et pas simplement en France, c'est que le système représentatif fondé sur les élections, qui avait pu être stable pendant quelques décennies après la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, traverse une crise profonde, structurelle. Ça ne va pas se résoudre comme ça facilement. Avant, il y avait des partis qui permettaient d'organiser la population, le débat social, de permettre aussi, comme des éponges, des passages entre les citoyens et les décideurs. Aujourd'hui, les partis recrutent le personnel politique, mais ils n'organisent plus le débat politique et la vie sociale. Il faut imaginer des choses qui puissent remplacer cela. Je crois que les instruments de démocratie délibérative, directe, participative, sans être des recettes miracles, sont aujourd'hui partie de la panoplie qui pourrait nous permettre de tenter de faire face à la crise de défiance politique extrêmement forte que nous traversons.
Pierre Madec.
Sur la nécessité de remettre de la participation des citoyens, le débat sur l'impôt, il s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire, quand les Français disent « c'est pas normal qu'il y ait un Français sur deux qui ne paye pas l'impôt », en réalité, on l'a dit, la CSG, tout le monde la paye, la TVA, tout le monde la paye, et TVA plus CSG, c'est 3-4 fois l'impôt sur le revenu. Donc, on voit bien que l'impôt sur le revenu, il est devenu marginal dans l'ensemble des prélèvements.
Mais est-ce qu'il est pratiquement obsolète, par exemple ?
Ben, il n'est pas obsolète parce que, en réalité, ce qu'on voit dans le débat, c'est que les Français ont l'impression de payer l'impôt parce qu'ils le déclarent, parce qu'avant le prélèvement à la source, il fallait vraiment acquitter son impôt, et que ça, c'était un geste citoyen, qu'on avait l'impression que on était les seuls à payer l'impôt parce qu'on payait l'impôt sur le revenu. Là, avec le prélèvement à la source, on enlève aussi de la participation aux citoyens dans le débat, et donc il va falloir réfléchir aussi à comment on explique aux Français que tout le monde paye l'impôt, et comment peut-être on les fait contribuer, non pas en augmentant l'impôt, mais en changeant peut-être le mode de déclaration pour que tout le monde ait bien l'impression de participer.
Yves Saint-Omer, dans les solutions pour augmenter la participation des citoyens, on parle du référendum, mais pas tellement du référendum d'initiative citoyenne, qui était l'une des principales revendications identifiables des Gilets jaunes. C'est un problème, c'est vrai, que cette solution soit quasiment totalement exclue ?
Ben, visiblement, les personnes qui ont participé en votant, parce que ces chiffres sont calculés par rapport à des mini-votes qui ont pu avoir lieu dans certaines instances du grand débat public, du grand débat national, n'étaient pas sur la même longueur d'onde que les Gilets jaunes, n'étaient pas non plus sur la même longueur d'onde qu'une majorité des Françaises et des Français. Quand on fait des sondages réguliers depuis des années, c'est une revendication qui apparaît. Donc voilà, on a ce problème d'une non-représentativité, au moins sur ce plan-là, des personnes participant au grand débat.
Merci Yves Saint-Omer, merci également Pierre Madec d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Arnaud Lassoa à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
I'm gonna see you. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.reflet-salvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Suite de cette émission spéciale consacrée au 25e anniversaire du génocide des Tutsis, le Rwanda commémore depuis hier ce génocide, 100 jours pour se recueillir, pour commémorer. On en parle avec André Guichawa, historien spécialiste du Rwanda, et Sonia Rollet, journaliste au service Afrique de RFI. Nous prenons le temps ce matin de répondre à toutes vos questions, et elles sont nombreuses. On va essayer, André Guichawa et Sonia Rollet, de répondre au plus grand nombre d'auditeurs dans les 20 minutes qui nous restent. Question Facebook. Songalo nous demande pourquoi la communauté internationale n'a-t-elle pas réagi à l'époque, et plus particulièrement l'ONU. L'ONU, effectivement, qui était présente en février 1994. Il y avait des casques bleus, André Guichawa.
Oui, si on se limite à l'événement essentiel, c'est-à-dire l'attentat. Il faut savoir que dans les 2-3 mois qui ont précédé, la tension a été extrême pour la mise en place d'un gouvernement de transition. Les Nations Unies ont joué un rôle très important dans ce processus, et les forces politiques s'y sont engagées avec une détermination, voire une violence, avec des assassinats politiques, des disparitions, enfin bon, etc. Voilà. Donc, quand arrive l'attentat, il est clair que tout le monde savait que le niveau des enjeux a été placé très haut, et que ceux qui en ont pris l'initiative ne pouvaient ignorer les suites. Dès le lendemain, Bagosora, le chef, enfin bon, un des leaders des groupes extrémistes de l'armée, couvre l'enlèvement d'une dizaine de casques bleus qui sont assassinés. Voilà. Ça a été un événement majeur et le signe de la débandade. Quand on constate la détermination que les deux ennemis ont mis en œuvre immédiatement, l'enjeu c'était bien d'en finir avec cette guerre. Ouais. Et ils sont partis.
C'est ça qui est extraordinaire et incroyable, Sonia Rollet, c'est que le général Dallaire, le général canadien qui est à la tête des casques bleus, lance à plusieurs reprises des signaux d'alerte au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il n'y a pas de réaction. Lui, il demande davantage de casques bleus, plus de casques bleus. Et ce que font les Nations Unies, c'est justement de réduire le nombre de ces casques bleus. Au final, je crois qu'ils ne sont plus qu'une centaine ou 200 maximum.
Et en fait, ce qui est marquant, et ce qui est toujours marquant en fait sur ces périodes, c'est à quel point en fait le Conseil de sécurité est divisé. Donc il y en avait certains qui soutenaient le président Habyarimana, d'autres qui soutenaient le FPR dans le Conseil de sécurité. C'est toujours le problème. Et puis c'est pas une période où en fait où les Nations Unies ont très bien réagi aux massacres ou aux situations. Enfin, il y a plein de situations dans le monde à ce moment-là où en fait les Nations Unies sont complètement incapables de réagir. Et de toute façon, face à ces grands crimes de masse, en général, si on regarde l'histoire des Nations Unies, c'est très compliqué ou très difficile, quand il y a vraiment ces volontés qui sont affichées de commettre des violences de masse, on voit très rarement les Nations Unies être capables de d'y mettre un terme. On le voit encore aujourd'hui, hein, y a des massacres qui se passent à côté de base de l'ONU. Donc il y a toujours en fait un côté politique, une question politique qui se pose à partir du moment où il y a un grand crime de masse qui est en train d'être commis.
André Guichaoua.
Oui, mais en même temps, on a assisté à des scènes inouïes, enfin personnellement, de casques bleus à des carrefours qui ne bougeaient pas devant les massacres qui étaient commis sur les barrières.
Leur mandat était trop faible, disait-on à l'époque.
Assurément, mais ce sont les conditions vécues. Hein. Ensuite, l'armée française est intervenue, l'armée belge est intervenue. Personne ne pouvait comprendre sur place qu'il n'y aurait pas d'intervention pour faire cesser les massacres. Et écoutez, je ne suis pas militaire, mais on ne peut pas imaginer que 2000 militaires français ou X belges plus etc. Ne soient en mesure d'assurer au moins des éléments de sécurisation, notamment dans la capitale.
Vous parliez des militaires français, justement, Abdoul Aziz. Vous avez une question concernant l'opération Turquoise. Nous vous écoutons.
Ok. Donc, en ce qui concerne l'opération Turquoise, j'aimerais savoir pourquoi cette opération-là, envoyée par la France au Rwanda en juin 1994, est accusée d'inaction, voire de complicité avec les génocidaires. Alors, quels sont les éléments dont on dispose pour appuyer cette idée?
Alors, c'est le FPR hein, qui accuse Paris de vouloir sauver le régime Hutu et les responsables du génocide en déployant, avec le feu vert des Nations Unies, l'opération Turquoise qui, au début, en tout cas officiellement sur le papier, elle est présentée comme une opération humanitaire, André Guichaoua.
C'est une opération, soyons clairs, politiquement motivée. Personne n'avait l'intention d'y aller. La France s'y est proposée et elle envisageait de le faire sérieusement. Elle était même déjà prépositionnée dès le début des négociations et avait même fait des premières incursions dans le nord du pays, etc. Bon, quand la décision finale a classé la mission dans la catégorie strictement humanitaire, la France s'y est conformée. Et là, je voudrais rappeler un élément très important sur le réalisme des combattants. Le hasard a voulu que je sois à Bruxelles, c'était les 21 et 22 juillet, juin, pardon, 1994. Pendant que j'y étais pour sur le rapatriement de personnalités au Rwanda, s'est débattu le rendez-vous avec le ministre français Alain Juppé. Les membres du FPR installés à Bruxelles s'y sont rendus, et notamment Jacques Biot-Zagara. Lors de son retour, soyons clairs, ça a été la fête. Parce que les négociations ont débouché, je dirais, sur une double satisfaction. La première satisfaction, la France, excusez-moi, sa priorité, c'était de sauver les équilibres de la région. Et en l'occurrence, c'était de sauver le régime burundais, qui n'aurait jamais pu supporter l'arrivée d'un million ou de 2 millions de déplacés. Hein ? Ça, c'est, je pense, le point essentiel. Le deuxième point, le FPR ne pouvait pas assumer la prise en charge d'1 million à 2 millions de personnes à la frontière. Son objectif était un objectif militaire, c'était de monter le plus vite possible au nord du pays pour prendre le contrôle de la région présidentielle et empêcher l'installation d'une guérilla durable. Et dès cette date-là, on l'a vu dès le lendemain, le FPR a cessé son avancée, bien entendu, hein, la France a fait la prise en charge, entre guillemets, humanitaire, et le FPR est monté sur le nord. En fait, ouest du pays.
Sans rentrer dans trop de détails, pour dire simplement les choses, cette opération officiellement humanitaire a de facto bloqué la progression des hommes de Paul Kagame.
Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre en fait avec l'opération turquoise, c'est d'abord qu'on l'a présentée comme neutre, ou que la France était neutre, et c'est toujours un problème avec les Nations Unies. Et sur ce type d'opération, quand d'un seul coup c'est politique et que plus personne veut y aller, c'est qu'en fait, c'est le pays qui va être du côté d'un belligérant, et en l'occurrence la France était depuis très longtemps, hein, sur toute la guerre, a été du côté du gouvernement Habyarimana et donc de cette armée dont une partie après a été l'origine du génocide, ou a vraiment été moteur de ce génocide-là. Et donc c'est vrai que dès le départ, le ver était dans le fruit. On se retrouve avec le FPR qui évidemment voit son belligérant, parce qu'on peut pas le voir d'une autre manière, de son point de vue, avancer, et lui, et qu'il y a effectivement quand même des discussions qui s'amorcent entre les deux pour savoir justement comment gérer et puis éviter la confrontation. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation qui est un peu absurde sur le papier, de voir un belligérant se présenter comme neutre et ensuite dire « mais là j'étais dans ma mission neutre et puis à côté j'étais pas dans ma mission neutre ». Le problème dans tout ça, c'est toujours pareil, c'est que en fait dans le rôle de la France, la France donc s'est mise du côté de ce gouvernement, a donc été en lien avec l'armée, c'est ce qu'elle fait toujours quand elle décide de se mettre d'un côté d'un État, et puis elle a mis tous ses rouages de sa politique ou de sa diplomatie pour s'assurer que l'objectif qu'elle avait dans la région serait respecté.
Autre question posée par Hervé à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aussi à tous vos invités à la RFI.
Merci, nous vous écoutons.
Oui, ma question est de savoir pourquoi la France refuse de déclassifier et de donner accès aux archives sur le génocide du Rwanda.
Alors, il se trouve que le président Macron s'est engagé à ouvrir justement les archives sur le rôle de la France au Rwanda. Son prédécesseur François Hollande avait lui aussi annoncé la déclassification des archives. Vous y croyez, André Guichaoua ? Cette fois, c'est la bonne. Toutes les archives seront déclassifiées concernant le rôle de la France en 1994 ?
Alors, par rapport à la mission parlementaire de 1997-98, les pouvoirs qui incombent à la nouvelle commission sont finalement beaucoup plus larges. Et en plus, elle est prise en charge par des personnalités spécialistes des archives et connues pour leur indépendance et leurs compétences.
Vous faites référence à la commission,
aux membres de la commission
lancée il y a 48 heures par le président Emmanuel Macron. Spécialiste, certes, des génocides, mais aucun spécialiste du génocide des Tutsis.
C'est peut-être une condition sine qua non pour que le sujet soit abordé dans un minimum de sérénité et de rigueur.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que sur cette histoire, nécessairement, étant donné que la France était un côté et le Rwanda un autre, on se retrouve au sein, en fait, de tout ce débat France-Rwanda sur des positions qui sont parfois des positions qui sont très politiques. Avec des personnalités qui vont prendre des parts politiques, alors qu'en fait le problème est technique, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'a fait la France, quelle a été cette politique de coopération, jusqu'où c'est allé, et est-ce qu'on a dépassé les cadres d'une coopération normale, et dans quelle mesure c'était normal. Et c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui montrent qu'il y avait une coopération avec un régime, que la France soit n'a pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer, soit a un certain type de politique étrangère qui implique un soutien à des régimes parfois autoritaires, avec des armées qui commettent parfois des violations massives des droits de l'homme, et que finalement, ça fait pas partie forcément des critères que Paris met toujours en avant pour choisir en fait sa politique.
André Guichaoua.
Pour répondre très précisément à la question,
archives,
pourquoi elles n'ont pas été déclassifiées ? Parce qu'elles ne peuvent pas l'être. Elles sont couvertes par la loi, protégées, et les modalités qui ont été élaborées relèvent d'une décision présidentielle qui confie à 9 personnes la possibilité d'y accéder avec l'autorisation des autorités en charge, les affaires étrangères, le ministère de la Défense, etc., mais avec un accès global, mais confidentiel. Je dis bien.
Oui.
Mais confidentiel.
Mais confidentiel.
C'est-à-dire que ça leur est personnel et ils n'ont pas à diffuser ces éléments. Ce n'est donc pas un accès public à ces données. Mais, et c'est ça le plus important, ce sont ces personnalités qui vont les trier, qui vont les juger pertinentes, et qui rendront publics tous les documents utilisés dans la publication des annexes.
Ouais, je précise que Vincent Duclair était l'invité ce matin d'Arnaud Pontus sur RFI. Entretien à réécouter évidemment sur notre site rfi.fr. Une autre question, bonjour Tim.
Bonjour Juan Gomez, bonjour.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup. Alors, ma préoccupation est la suivante. En 1994, il y a eu une multitude de Rwandais Hutus qui ont traversé la frontière pour se réfugier à l'est du Congo. Alors, depuis tout ce temps, quelles mesures de rapatriement le gouvernement rwandais a mises en place?
Ah, qui veut répondre? André Guichawa, que sont devenus ces dizaines de milliers de Hutus qui ont effectivement quitté le Rwanda pour se réfugier, à l'époque c'était le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo?
Alors, les dizaines de milliers étaient en fait quasiment 2 millions, hein, pendant la période la plus importante, hein, c'est-à-dire juste après l'arrivée au pouvoir du FPR. Bon, pendant un peu plus d'un an, il y a eu des négociations entre le gouvernement qui avait été mis en place et eux pour débattre du retour de ceux qui le souhaitaient, en sachant très bien que parmi eux, dans les camps, il y avait des partisans de l'ancien régime et notamment des militaires qui essayaient de reconstituer leur armée.
Il y avait, pour dire clairement les choses, des génocidaires.
Il y avait massivement
parmi ces réfugiés
des génocidaires, mais et notamment les militaires et les troupes qui allaient avec et pour une part des équipements. Bon, de là à dire que toute la population qui était dans les camps était génocidaire, ça c'est déjà beaucoup plus compliqué. Maintenant, donc. Après la démission de la plupart des personnalités qui étaient partisans d'une politique de négociation, les autorités rwandaises ont décidé en 96 d'en finir, et ça a été l'intervention militaire qui a causé, c'est-à-dire le rapatriement forcé, donc à peu près 200 à 300 000 seraient rentrés de force, les autres auraient fui. Mais sur ces éléments-là, on n'a pas vraiment de chiffres.
Sonia Rollet.
Alors, il y a eu cette entrée au Congo, en fait, de l'armée rwandaise, et c'est à partir de ce moment-là que sur le Congo, on entre dans une période qui sont couvertes, par exemple, par le rapport mapping fait par l'ONU sur les crimes commis au Congo, et notamment entre 96 et 98, il y a eu un certain nombre de crimes commis, justement, contre ces populations hutus, et notamment les populations civiles, et il y a eu des séries de massacres qui ont été commis, qui vont durer, jusque en 98 ou encore en avoir. Il faut savoir qu'en fait le Rwanda à ce moment-là a dit c'est pour des raisons de sécurité qu'on rentre au Congo et qu'on mène cette guerre et qu'ensuite jusqu'en 98 quand l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se battent dans les rues à Kisangani, ils disent encore que c'est pour la protection et la sécurité en fait du Rwanda. Donc c'est pour ça que les gens au bout d'un moment disent qu'il y avait une instrumentalisation en fait de l'idée de la poursuite des génocidaires pour une invasion ou une occupation du Congo. Mais c'est vrai que, en tout cas, ces crimes qui ont été commis là, eux, n'ont jamais été jugés, que ça pèse lourdement quand même sur l'histoire, en fait, entre les communautés au Rwanda, puisque c'est des crimes dont on ne peut pas parler. C'est vrai que l'ONU a fait un travail, mais sans jamais désigner les responsables, et qu'elle a fait un travail à travers le Mapping Report. Mais par contre, aujourd'hui, on n'en parle pas du tout de ces crimes-là.
Ouais. En deux mots,
oui, André Guichard. Et pourtant, il reste encore aujourd'hui 200 000 rwandais au Congo, dont les conditions de rapatriement sont durement négociées et qui vont vraisemblablement se traduire par du rapatriement forcé.
Il nous reste 3 minutes. Une dernière question et vraiment toutes nos excuses pour les nombreux auditeurs qui espéraient passer à l'antenne ce matin. Mais voilà, c'est comme ça, on prend le temps de vous répondre et c'est vrai que chaque question mériterait une heure d'émission. Évariste, bonjour.
Bonjour, Angoumès.
Nous vous écoutons.
Bonjour,
vous êtes au Nigeria, on vous écoute.
Oui, évidemment. En fait, j'ai deux préoccupations. Ma première question est à deux volets.
Oui, allez-y.
Ouais. Quel est le bilan du jugement rendu par le tribunal pénal international pour le Rwanda? Et pourquoi a-t-il arrêté ses travaux en 2015?
Alors, grande machine judiciaire que celle du tribunal pénal international pour le Rwanda. Cette machine aura duré 20 ans. Pour quel bilan, André Guichawa?
Bon, je crois que on va se limiter à des choses très précises.
Oui.
93 procédures ont abouti. Elles concernent des personnalités majeures de l'armée, de la sphère politique, des médias, etc. Cela répond à l'objectif qui lui avait été fixé, c'est-à-dire de s'occuper des éléments que l'on considère comme étant les planificateurs ou les organisateurs ou les acteurs majeurs
du
massacre et du génocide. Bon, on ne rentre pas dans les débats de ceux qui n'y sont pas, même si on peut penser que ceux qui ont réussi à y échapper sont toujours saufs et certains ont fui. Mais l'élément, à mon avis, le plus important, il tient aussi à la deuxième question qui a été posée. Le TPIR n'a pas achevé son mandat, mais à la demande, enfin je dirais avec l'acquiescement entre guillemets, je pense, des procureurs et avec l'acquiescement du Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu poursuivre et juger les auteurs et des délits et des crimes du camp vainqueur qui avait été pourtant formellement identifié.
Effectivement, Sonia Rollet, ça c'est un point qui a souvent été pointé du doigt, c'est qu'à aucun moment le TPIR n'a ouvert de dossier contre la famille Abiarimana, contre les responsables du génocide, pardon, je dis le contraire, contre ceux qui sont arrivés au pouvoir, par exemple,
voilà.
Qui eux
enfin,
aussi ont commis des...
Alors, ils disent quand même qu'ils avaient 13 dossiers ou 13 cas, donc les enquêtes spéciales, on les appelait comme ça, avec des cas identifiés, ils avaient des preuves, ils avaient... Enfin, quand on parle, en tout cas, avec les anciennes équipes du TPIR, il n'y avait pas tellement de problèmes sur le fond pour documenter des crimes, quand c'est par exemple des massacres dans des camps de réfugiés où il y avait des témoins, il n'y a quand même pas trop de problèmes avec ça. Mais c'est vrai que, en tout cas... il n'y a pas eu la volonté politique de juger ces crimes. C'est un socle d'impunité qui touche aussi le Congo, parce que du coup, les crimes qui ont été commis au Congo n'ont pas pu être jugés, essentiellement parce que les alliés en fait du FPR à ce moment-là, les États-Unis et la Grande-Bretagne, s'opposent à toute poursuite.
Ouais. Merci. On arrive à la fin de cette émission et encore une fois.
Qui vous fait des trous et qui vous met à nu. C'est une idée parmi les plus folles, une idée de passion qui fait tomber les auréoles pour des péchés mignons. On ne parle pas de vice, plutôt d'un écart occasionnel. Ça met un petit peu d'épices, ça tente même les plus rebelles. Oh, c'est tellement bon, pas de question, c'est l'occasion juste pour un péché mignon. Oh, une suggestion, un œil espion, passe à l'action juste pour un péché mignon. Prendre la vie par devant ou le diable par la queue, ça rajoute du piquant, ça rallume les feux. Passez donc au boutoir, la rue Church se déguise. On a vidé tous nos placards, mais le burlesque nous grise. Il s'agit de mordre dans la vie, à petite bouchée, à belles dents. C'est délicieux, c'est très naughty, mais c'est tant mieux pour les gourmands. Oh, c'est tellement bon, pas de question, c'est l'occasion juste pour un péché mignon. Une suggestion, un œil espion, passe à l'action juste pour un péché mignon. On speak a little English, mais en French very well. On va être sur notre 36, ça va être hors chugentuel. Oh, c'est tellement bon, pas de question, c'est l'occasion juste pour des péchés mignons. Oh, une suggestion, un œil espion, passe à l'action juste pour un péché mignon. Oh, passez nous voir, même s'il est tard, on est fait tard, on aime les péchés mignons. Oh, à franco-queer, c'est le désir, malin plaisir, juste pour des péchés mignons. Juste pour des péchés mignons, pour des petits péchés mignons. C'est bon, oh là là, oh c'est bon, bon. Pour des petits péchés mignons, pour des petits péchés mignons.
On s'en va à Hollywood parce qu'on a la possibilité de jouer dans un film avec Fred Astaire. Ouais, ça fait qu'on est venu là-bas.
Three lovely ladies from Wawa, Ontario. It's their first time in Hollywood, California. It's my pleasure to introduce to you Les
chez Clarisse.
Même la waitress qui rêve d'être une starlette, pour danser à l'écran avec nous sans claquette, on est à Hollywood.
Les gens viennent voir une comédie musicale, en fait, un peu théâtre des variétés comme dans les années 40 à Montréal. J'ai la tulipe, la pointe un peu, là.
Certainement notre étourdie au grand cœur et une excellente danseuse.
Mais.
5, 6, 7, 8!
Ben, c'est sûr qu'un petit break d'analyse, ça nous ferait pas tort une fois de temps en temps. C'est notre petite pointilleuse, mais on l'aime comme ça.
Huguette! Ben, c'est la bosse, hein? Où elle s'en va. C'est un petit peu contrôlante, mais on l'aime, hein? Huguette, wouh!
Les Chiclets plongent dans le répertoire des années 40 pour mieux en ressortir avec des adaptations, des pièces originales et des pas de danse inspirés. Lauréate de deux prix Tréor, dont celui du meilleur groupe, elle mise sur l'émotion.
Écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Sounou Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Réactions inattendues, relations surprenantes ou irrationnelles, interactions sociales altérées, les signes et comportements associés à l'autisme sont multiples, variés, plus ou moins présents, plus ou moins envahissants. Autisme ou trouble du spectre autistique, handicap, différence, les perceptions, les explications sont-elles aussi multiples et variées? Et ces troubles, étant donné qu'ils apparaissent le plus souvent au cours des trois premières années de la vie, impliquent directement l'entourage, la famille et bien sûr les parents. Parents et corps médical qui peuvent avoir une vision, une compréhension particulière de l'autisme, des troubles pluriels, ce qui peut conduire à des errances de diagnostic et une forme d'incompréhension amplifiée par l'insuffisance des capacités d'accueil, des offres de prise en charge comme parfois leur inadaptation aux problématiques rencontrées. Les autorités tentent de pallier ces insuffisances au travers de programmes, de moyens. La France en est à son 4e plan autisme. Et nouveauté à l'occasion de la journée mondiale de 2019, c'est le lancement en France d'une plateforme téléphonique Autisme Info Service pour répondre aux questions sur l'accompagnement et offrir une écoute aux personnes autistes et à leurs familles. Journée mondiale de l'autisme avec donc l'ouverture de cette plateforme Autisme Info Service numéro gratuit en France. Il s'agit du 0800 71 40 40, un centre d'appel associé à un site web. Nous mettrons bien sûr le lien de ce site sur notre propre lien Priorité Santé. Et avec nous en studio aujourd'hui, docteur Noël Pompuy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, psychiatre, thérapeute familial, chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, vice-président de la commission médicale d'établissement à l'hôpital de Ville-Évrard, à Neuilly-sur-Marne, c'est en région parisienne. Trouble qui implique, hein, on l'a dit, toute la famille, qui mobilise les parents. Avec nous, deux parents. Lydie Lepunga, bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes la maman de quatre enfants, dont Max Kevin, 16 ans, Ray Oscar. Vos fils sont tous les deux autistes. On va en parler tout à l'heure, bien sûr, dans l'émission. Et avec nous, également, vous, Mamadou Fané. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le père de quatre garçons. Et votre petit garçon, votre fils de 7 ans, Cheikh Ibrahim, est lui aussi autiste. Tout à l'heure, nous parlerons de la recherche. Pour cela, nous serons en ligne de Montpellier avec le professeur Amaria Baghdadli, professeur des universités à la faculté de médecine de Montpellier, responsable du département universitaire de pédopsychiatrie du CHU de Montpellier.
Priorité santé sur RFI.
Et avant de donner la parole à nos invités en studio, nous allons tout de suite retrouver en ligne Corinne Thor. Corinne Thor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice d'urgence de Médecins Sans Frontières. On vous retrouve pour parler de l'épidémie de choléra qui frappe les zones sinistrées par le cyclone Idai, au Mozambique notamment. Nous avons enregistré cet entretien juste avant notre émission. Vous vous trouvez précisément à Tika, hein, c'est au nord de la ville de Beira, dans cette région d'Afrique australe, frappée donc il y a un peu plus de deux semaines par le cyclone. Sur place, bilan de plus de 700 morts, donc Mozambique, Zimbabwe, Malawi touchés. Au Mozambique, hein. Corinne Thor, c'est là que vous êtes, c'est la zone la plus durement touchée. Comment on peut décrire les lieux, surtout comment décrire la situation pour la population ?
Actuellement, les ONG qui interviennent et qui aident le gouvernement se mobilisent particulièrement sur Beira, qui a été énormément touchée. En revanche, ce qui se passe actuellement, c'est sur la région précisément de Tika, de Nyamatanda ville, où il y a un manque avéré d'intervention. Donc nous avons fait le choix d'intervenir dans ce coin plus reculé, et la situation clairement s'améliore aujourd'hui, puisque après trois semaines, il ne pleut plus. Donc toute la partie qui a été inondée diminue petit à petit. Mais il y a encore des zones inondées avec une population qui a perdu ses maisons, donc qui se retrouve toujours à la rue, qui n'a pas accès à l'eau potable. Et nous avons finalement de plus en plus de cas de diarrhée sévère qui se transforment en choléra avérée.
Alors, sur le plan sanitaire, justement, ces maladies diarrhées qui ont fait leur apparition, bilan officiel donné par le directeur national de la santé du Mozambique, ce sont les tout derniers chiffres, 1004 choléra, un mort, une centaine d'hospitalisations. En quoi consiste aujourd'hui la prise en charge de ces maladies diarrhéiques sur place, Corinne Thor, en situation de crise ?
Alors actuellement, il y a des centres de santé qui malheureusement ne sont pas en capacité de traiter ces patients parce qu'ils ont été eux-mêmes affectés par le cyclone, donc des destructions, et il s'agit d'aller faire des rénovations de centres de santé. Nous sommes par exemple, nous, impliqués sur peut-être parce que nous faisons actuellement l'exploration sur le sujet, sur la rénovation de 17 centres de santé et sur un appui médical de ces 17 centres de santé. Nous avons fait le choix de nous investir sur le centre de santé de Tika, car il y a une population importante autour de Tika qui est donc dehors et qui n'a pas accès à l'eau. Sur Tika, sur le centre de santé de Tika par exemple, ils reçoivent à peu près 200 patients par jour, et depuis deux semaines, il y a 130 cas qui probablement étaient des cas de choléra, mais comme ils ne pouvaient pas procéder à des tests, ils avaient tendance à appeler cela des cas de diarrhée sévère. Hier, nous avons mis en place une dizaine de lits pour pouvoir commencer à prendre en charge des patients. Nous ne sommes pas totalement prêts à prendre tout le monde en charge puisque nous sommes en train de réceptionner nos frettes et de recruter du personnel, mais c'est évident que les cas que nous voyons sont des cas avérés de choléra.
Alors, problème, on a compris, hein, de logement, d'habitation, problème d'accès à l'eau potable, à l'eau propre, et bien sûr, question alimentaire. De quoi disposent aujourd'hui les populations, Corinne Thor, sur le plan alimentaire?
Aujourd'hui, en fait, il y a des distributions alimentaires qui sont organisées par les Nations Unies. Malheureusement, il y a une partie de la population qui n'a pas pu encore accéder à ces distributions alimentaires parce qu'il y a encore des zones éloignées. Nous sommes en zone rurale, comme vous le précisiez. Donc, il y a des poches de population dans différents coins des districts. Et c'est la difficulté aujourd'hui de pouvoir accéder à ces personnes qui sont bloquées de l'autre côté des rivières ou parce que les ponts se sont effondrés sur les routes et qui risquent d'être en grave difficulté, d'où la problématique de connaître réellement un vrai chiffre de personnes qui sont encore soit peut-être décédées, soit peut-être en énorme difficulté parce qu'après 3 semaines, toujours pas accès à de l'eau, à de la nourriture et aux soins.
Corinne Thor, un dernier message à faire passer ?
Oui, je pense que tout le monde se mobilise actuellement. Il faut continuer cette mobilisation. Le ministère de la Santé organise aujourd'hui, à partir de jeudi, une campagne de vaccination choléra. C'est très très bien. Et il faut absolument réfléchir au fait qu'il y a encore des populations qui n'ont pas accès aux soins. Il faut tous se mobiliser pour que ça se fasse le plus vite possible.
Merci infiniment pour ce témoignage. Un Tika près de Beira au Mozambique, au cœur de la zone ravagée par le cyclone Idai. Merci Corinne Thor. Je rappelle que vous êtes coordinatrice d'urgence de Médecins Sans Frontières.
RFI.
Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. On retrouve donc nos invités en studio pour insister d'emblée sur un point, docteur Noël Pompuy. Ces termes qu'on emploie, qui ont beaucoup d'importance, est-ce qu'on peut dire finalement que quand on parle de l'autisme, on avance un petit peu, on va dire, à tâtons, parce qu'il y a des mots qui choquent, il y a des choses qui blessent. Pourquoi autant de sensibilité ?
Ben, je dirais que l'autisme est un problème médical, mais pas seulement. C'est aussi un problème politique. C'est un problème politique qui touche d'une manière générale à des dispositifs de soins spécialisés pour ce type d'enfants et d'accompagnement et d'intégration dans des milieux, par exemple, ordinaires, comme l'école. Et puis, politique dans le sens aussi de l'acceptation dans nos sociétés de sujets qui sont différents, qui ont des besoins différents. Il y a tous les aménagements qui se font pour différentes formes de handicap. Et aujourd'hui, pour l'autisme, on est encore à la traîne sur l'aménagement des lieux pour l'accueil de ce type de public. Et puis, c'est une question qui est hautement sensible pour les parents, qui pendant longtemps dans certains courants ont été culpabilisés et aujourd'hui qui sont en attente de prise en charge pour leurs enfants, qui sont en attente de solutions et il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de cause précise et du coup là on est encore dans des solutions d'accompagnement, parfois des solutions palliatives et ça reste extrêmement douloureux.
Alors cette douleur, elle commence par le diagnostic précisément. Quels critères, quels signes, docteur Pompuy, doivent être réunis pour qu'un médecin, on va dire, envisage de poser ce diagnostic? On imagine que les choses ne sont pas catégoriques. Oui et non?
Oui et non. Alors je dirais que les critères ont évolué en cours des dernières années. Et notamment, il y a des critères qui portaient, par exemple sur la question du langage, ont disparu des nouvelles classifications. Et on va s'intéresser aux interactions et à la communication sociale des individus et à un certain nombre de particularités dans leur comportement. Donc ces critères, à partir du moment où ils ont été spécifiés un peu autrement, élargis, il y a des gens qui n'entraient pas dans ces catégories avant et qui aujourd'hui en font partie et qui parfois sont plus difficiles à repérer, donc avec des cas où il y a une complexité diagnostique, notamment c'est vrai pour des patients qui ont du langage. C'est moins vrai pour les patients qui aujourd'hui sont en plus grande souffrance, c'est ceux qui ont un déficit intellectuel associé. Donc les signes qu'on repère sont des signes d'interaction, donc c'est des enfants qui vont pas forcément chercher le contact, voire parfois vont l'éviter, qui vont préférer des activités solitaires, qui ne vont pas entrer en interaction pour échanger leurs intérêts, par exemple présenter un objet, qui ne vont pas pointer, qui ne vont pas chercher à attirer l'attention d'autrui sur leurs activités ou sur des choses dont ils ont besoin ou qui les intéressent, dans lequel le langage peut ou pas se développer. Hein. Donc le langage, c'est pas forcément la question prioritaire. Et puis, il y a des comportements spécifiques qu'on repère, qui sont des comportements répétitifs, donc des gestes répétés, des gestes qui sont à but de rechercher des sensations, essentiellement, la manière d'observer des objets, de les détourner de leur fonction initiale, par exemple, prendre le cordon d'un combiné téléphonique pour l'agiter et pour regarder son mouvement, plutôt que de prendre le téléphone pour le porter à son oreille et faire comme un enfant de 2 ans, d'imiter à l'eau, etc. Et puis, des réactions particulières, ça c'est nouveau et c'est important de l'avoir noté parce que ça fait quand même partie des grandes difficultés des sujets autistes, c'est des réactions et une sensibilité particulière à toute la sensorialité, donc l'ensemble de l'organe des sens, que ce soit la vision, l'audition, avec parfois des surréactions ou au contraire des faibles réactions ou parfois des recherches de sensations dans ces domaines-là.
Avec par exemple, on peut le voir chez certains enfants, un réflexe un petit peu à se boucher les oreilles, oui, quand il y a, on va dire, même pas trop de bruit, un peu de bruit. Parce qu'il y a un ressenti qui est différent, ou c'est quoi précisément?
Il y a un traitement de l'information qui est très différent chez les sujets autistes, qui fait qu'ils ne peuvent pas sélectionner les informations qu'ils perçoivent. La plupart des enfants, très rapidement, vont avoir ce qu'on appelle une perception intermodale, c'est-à-dire qu'ils vont associer plusieurs sensations de plusieurs sens pour en faire une sorte d'interprétation unique qui le plus souvent est sociale. Par exemple, une maman qui s'adresse à son enfant, eh bien l'enfant va avoir des informations visuelles, auditives, parfois tactiles si elle le touche, etc. Mais ça va devenir une seule sensation, c'est « maman me parle ». Et les sujets autistes ont du mal à faire cette synthèse. Et donc il y a une somme de sensations qui s'imposent, qui n'arrivent pas à trier, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent pas ne pas être attentif à des sons. Donc tout ça les parasite sans pouvoir mettre de sens. Et ça, c'est extrêmement compliqué à vivre pour eux au quotidien.
Avec vraiment des questions multiples sur la prise en charge, sur la place, sur l'intégration. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, docteur Pomepuy, la place des autistes, en tout cas, n'est pas en hôpital psychiatrique?
Alors, elle n'est pas. Ça dépend de quoi on parle. Parce que l'hôpital psychiatrique, en effet, c'est une certaine image d'un moment de deux grandes choses. La première, c'était l'enfermement d'enfants et l'internement quasiment à vie d'enfants qui rentraient alors avec des déficiences, qu'on appelait ça à l'époque, ou des psychoses infantiles, et qui restaient très très longtemps, avec l'idée aussi que leurs parents s'en occupaient pas bien, donc il fallait les prendre.
C'était lié aussi aux croyances, aux visions de
l'époque. Aux croyances qu'on avait, aussi à l'idée que dans la société, on devait mettre les gens malades de côté. Mmh. Et la deuxième chose, c'est aussi le développement d'approches non spécialisées pour ces enfants qui ont été accueillis dans des centres de jour, hôpitaux de jour, donc qui a créé cette polémique sur le fait que les hôpitaux de jour n'étaient pas des lieux adaptés pour les enfants autistes, mais essentiellement parce qu'il n'y avait pas forcément d'approche spécialisée. Alors, la question aujourd'hui, c'est une gradation de soins qu'il faut, et d'accompagnement, et d'intégration, c'est vraiment les trois mots les principaux. Alors, à l'école, on appelle ça « inclusion ». À des degrés divers et en fonction des besoins des enfants. Chaque enfant doit avoir un projet spécifique, qui doit tenir compte de ses besoins, de ses difficultés et malheureusement des moyens disponibles sur le terrain. Le problème principal.
On va donner tout de suite la parole aux parents qui sont avec nous en studio. J'ai juste une dernière question. À qui revient la décision de maintenir un enfant dans un parcours scolaire normal ou la nécessité d'être orienté vers des structures spécialisées? Docteur Pomepuy, qui décide?
Alors, c'est conjointement les familles et l'éducation nationale. Alors, les parents ont un droit de pouvoir dire quelque chose sur la scolarisation de leurs enfants. Il arrive parfois... Alors, généralement, les choses se passent bien et sont concertées. Il y a une discussion quand il y a une médiation tripartite entre parents, éducation nationale et services de soins ou d'accompagnement médico-éducatif, enfin voilà, des dispositifs d'accompagnement des enfants. Et qu'on discute vraiment de manière concertée, sans se renvoyer la balle les uns aux autres sur ce qu'on va faire ensemble. Mais il arrive parfois qu'il y a des situations conflictuelles, ou parce que l'école n'est pas en mesure d'accompagner l'enfant, ou que pour la famille il y a des demandes très importantes, ou que le lieu d'intégration marche pas, et qu'il y a des conflits dans ces cas-là. Ça arrive dans des instances de médiation au niveau de l'éducation nationale.
Alors, ce diagnostic, bien sûr, qui conditionne toute la prise en charge, avec tellement de bouleversements pour l'entourage. Lydie Leponga, je vous donne d'abord la parole. Je disais tout à l'heure, deux de vos fils sont concernés par ces troubles. À quel signe, à quel moment vous avez décidé de dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que c'était d'ailleurs les mêmes signes chez chacun de vos deux enfants?
Ça était différent. Le premier, il a commencé un tout petit peu à parler. C'était le premier enfant, hein, donc on était tous autour de lui. Il a débuté bien. Et à partir de 15 ans, entre 15 et 16 mois, ben, ça a changé brutalement. Plus de mots, se met dans un petit coin, il tourne généralement en rond, il se balance, il crie.
C'était plus de nouveaux mots ou il a arrêté de vous parler?
Il a arrêté parce qu'il disait déjà un peu « papa ». Quand il avait envie d'aller aux toilettes, il disait le mot qu'il faut. Mm-hmm. Ben, du jour au lendemain, plus rien. Il pouvait faire sur lui. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Non.
Et comment vous avez réagi quand vous avez vu justement ce changement de comportement de sa part?
Au début, non. Au début, je me suis dit, tiens, il régresse. Bon, c'est pas grave, ça passera. Mais sauf que, en continuant comme ça, ça a commencé à m'alerter. Je suis allée voir, moi, à l'époque, le médecin qui s'occupait de lui. Il m'a dit, non, il y a un problème. Je l'ai vu autrement. Là, il change totalement. Ça ne me convient pas. Je vous envoie vers le CMP pour qu'on sache ce qu'il en est réellement. Là, ça ne va pas du tout.
Centre médico-psychologique.
Exact.
Et à partir de combien de temps le mot autisme a-t-il été prononcé et par qui?
Le mot autisme a été prononcé par le médecin du CMP qui m'avait dit, au départ d'abord, c'est les troubles envahissants du développement. Et puis plus tard, il m'a parlé d'autisme.
Et vous aviez connaissance de ce mot, de ce handicap?
Que non. Ça soit du trouble envahissant du comportement ou de l'autiste, je n'ai jamais été au courant de ça.
Alors à ce moment-là, c'est quoi votre réaction? Vous cherchez des informations? Qu'est-ce que vous faites?
Le monde s'écroule, c'est les pleurs, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, par où je vais commencer. Voilà, ça a été très compliqué. Je suis repartie vers le docteur qui s'occupait de moi à l'époque pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'on devait faire? Est-ce qu'on pouvait le soigner immédiatement, que ça devait disparaître? Voilà. Non, elle m'a préparée à faire une thérapie derrière, après, à faire d'abord des examens. S'il entend, s'il arrive à distinguer les sons, on a tout fait. Et puis, à ce moment-là, on a été à l'hôpital Robert Desbré pour faire des examens. Et aujourd'hui, le diagnostic est posé.
Et un deuxième enfant était aussi concerné dans la fratrie.
Exact.
Avec les mêmes signes ou pas vraiment?
Mais
les
pas
mêmes...
du tout, pas du tout. C'était un enfant bruyant, il allait dans tous les sens, hyperactif. Après, il est resté comme ça, hyperactif, mais sans un mot, sans rien. Impossible de le mettre à l'école parce qu'il se sauvait tout le temps. Impossible de le mettre en activité le plus simple. Voilà.
Mamadou Fanny, je vais vous donner la parole, mais on voit déjà deux enfants concernés dans une même fratrie. Docteur Pompuy, c'est quelque chose de fréquent?
Alors, on sait qu'il y a un risque plus important quand il y a un enfant dans une fratrie que d'autres enfants soient touchés. On sait que ça a probablement lié à une partie génétique, à une participation. Mais aujourd'hui, la génétique de l'autisme est quelque chose de très complexe, avec l'intrication de probablement plusieurs gènes à des niveaux différents, avec des gènes qui sont déclencheurs, des gènes qui créent d'autres niveaux de sensibilité. Mais en effet, il n'est pas rare... Maintenant, j'ai pas les statistiques là-dessus, mais en tout cas de trouver plusieurs enfants, pardon, dans une fratrie qui sont touchés par ces troubles.
Mais c'est un peu étonnant quand Madame Lydie Leponga nous dit développement quasi normal et un jour il y a un blocage. Et puis, cette régression, c'est quelque chose qui est observé fréquemment?
C'est très fréquemment rapporté par les parents. On est encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ce genre de situation. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés, notamment sur des films familiaux, c'est-à-dire les vidéos qui avaient été faites par des parents et qui essayent de trouver quels seraient des signes précoces qui feraient que l'enfant est déjà autiste. Eh bien, c'est pas si évident que ça. Même les professionnels se trompent. Ce qui est très important, c'est l'intuition des parents, leurs sensations par rapport à ça. Et en effet, on ne sait pas à quel moment il y a une désorganisation développementale chez l'enfant qui va apparaître et de quelle manière elle apparaît.
Alors, même question que je vous adresse, Monsieur Fanny, dans le cas de votre petit garçon. Qu'est-ce qui vous a paru inhabituel, en l'observant hein, comme un papa, dans ses gestes, dans sa façon peut-être de s'exprimer? Là, vous avez dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Non, pour Cheikh Ibrahim, ça n'a pas été ça. Cheikh a eu une évolution normale jusqu'à l'âge de 18 mois. À 18 mois, il a eu une convulsion. Donc, il a été traité pour l'épilepsie. Et à la suite, il y a eu un diagnostic qui a été poussé. Et ils ont décidé, en fait, le nom à donner à cette maladie, c'est le syndrome de Mabry, qui est d'un retard global et des troubles autistiques. Bon, Cheikh Ibrahim est non-verbal.
Donc il ne parle pas, pour dire simplement.
Voilà, jusqu'à présent, oui, il ne parle pas.
Mais quand vous disiez jusqu'à 18 mois, développement normal, donc il babillait, il faisait des bababa, mamama, ou il était silencieux?
Non, il était dans le développement normal de son âge, papa, maman, je veux ça, et après la convulsion, plus rien.
Et justement, convulsion, donc vous avez été l'enfant a été traité pour épilepsie, donc il a dû voir un service de neurologie peut-être?
Oui, bien sûr, il est toujours suivi à Robert Debré, mm-hmm. en neurologie. Nous sommes restés très longtemps sur le soin et au fil du diagnostic, c'était le syndrome de Marbury qui a été retenu.
Et ensuite, pour aller vers le syndrome d'autisme, comment ça s'est passé?
Après le trouble autistique, en fait, nous étions beaucoup basés sur le soin, mais au fil du temps, on a constaté un développement, c'est-à-dire qu'il y a eu une déformation de la marche.
C'est-à-dire problème pour se déplacer en plus.
Plus, voilà. Donc, on a suivi aussi des séances de kiné. Bon, le syndrome de Marbury regroupait ça. C'est dit, il y a le déplacement à la marche et troubles autistiques. Ensuite, une convulsion. Et il a eu la perte de parole. Il disait plus rien.
Comment est-ce que vous avez accueilli justement ces différents diagnostics? D'abord, ce trouble neurologique, puis l'autisme. Comment vous avez réagi avec votre famille?
Bon, on l'a plutôt bien accueilli parce qu'on était d'abord sur le volet soins. Donc, on se disait déjà, il faut aller d'abord sur le volet soins. Donc, on est resté dessus. Et après, quand on a été guidé au niveau du CMP de Noisy-le-Grand, bon, pour l'instant, quand même, nous sommes dans le volet où on accepte la situation parce qu'on se dit que c'est arrivé à travers une maladie. Et le développement que ça a donné. Donc, ce n'est pas la même situation d'acceptation pour tous les parents.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, parce que lui, c'est à travers une cause neurologique et qu'il y a eu ce développement.
Vous pensez que pour des parents pour qui on ne donne pas, on va dire, une explication physique, c'est plus compliqué?
C'est plus compliqué.
Est-ce que c'est votre cas, madame, justement plus compliqué parce qu'on va dire, il n'y a pas un diagnostic médical qui dit à tel moment son cerveau a eu tel problème, il y a plus quelque chose de l'ordre du comportement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de, on va dire, de culpabilité, même si on va en discuter? Ça n'a rien à voir avec la faute de quiconque. Est-ce que c'est plus lourd à porter à cause de cela?
C'est plus lourd à porter à cause de cela. On s'est posé la question, nous, à l'époque, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait bien pour qu'on en arrive là?
Parce que vous, finalement, monsieur, vous dites, il est malade?
En fait, c'est ça. Nous, on part toujours sur le volet maladie. Et jusqu'à présent, même à 7 ans, on essaie de le suivre de près par rapport à l'épilepsie. On ne voit pas le côté autistique. Mais voilà, la prise en charge n'y est pas. On s'est dit, peut-être avec une prise en charge adaptée, il y aurait une évolution.
Il y a quelques temps, docteur Pompuy, vous l'avez dit, il y avait justement cette dimension de mise en cause de l'éducation, de l'élevage pour justifier, expliquer. On en est complètement revenu. Malgré tout, la culpabilité, elle est toujours là chez les parents. Mais en fait, c'est commun à énormément de pathologies qui concernent le développement des enfants, voire même...
Je dirais que c'est commun à la condition d'être parent.
Voilà.
Et quand votre enfant est malade, vous dites que j'ai pas assez couvert. Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps. Donc, être parent, c'est être responsable, c'est penser qu'on a quelque chose à faire. Donc, je pense aussi que on ne doit pas chercher tout le temps à... Alors, il y a la culpabilité, le vécu d'un parent, et ça, je pense que c'est quelque chose, on doit discuter, on doit les accompagner, mais on ne doit pas leur en rajouter. Je pense que c'est surtout ça qui est à prendre, à garder dans cette histoire-là de l'autisme. Je pense que les parents ont déjà assez à supporter comme ça, sans rajouter cette culpabilité-là, pour laquelle il n'y a aucun fondement.
Surtout quand on voit l'investissement que ça nécessite au niveau du temps, au niveau de l'énergie. En tout cas, on ne peut pas reprocher à des parents de chercher des explications. Le problème, c'est que des explications simples, il n'y en a pas.
Non, malheureusement, c'est une condition. Donc l'autisme est un trouble, qui est un trouble essentiellement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matérialisation organique, il n'y a pas de lésion qui permet de dire, ben voilà, cette lésion-là, dans le cerveau, dans les gènes, c'est un signe caractéristique de l'autisme. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études et de faisceaux de compréhension sur le plan de l'imagerie, de la génétique, qui permettent de comprendre un certain nombre de choses, mais c'est encore des balbutiements, même s'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits.
Et les co-atteintes avec, comme le disait Monsieur Fanet, des maladies neurologiques, c'est aussi quelque chose de fréquent, cette comorbidité, par exemple, autisme-épilepsie ou crise d'épilepsie?
Alors, il y a deux choses. On sait que les sujets autistes sont plus à risque de développer une épilepsie, notamment au moment de l'adolescence. Donc ça va être, ils ont en gros, il y a 40% des patients qui vont présenter une épilepsie. Essentiellement les autistes avec retard mental. Là aussi, il faut distinguer ceux qui en ont un et en retard associé et ceux qui n'en ont pas. Et c'est à peu près moitié-moitié aujourd'hui dans les évaluations entre les deux catégories. Après, il y a ce qu'on appelle les autismes dits syndromiques. Ce sont des autismes qui se rajoute à une pathologie génétique ou neurologique. Donc là, M. Fanet a parlé de cette situation concernant son fils, et dans lequel, quand il y a une maladie génétique, par exemple le syndrome d'X fragile ou le syndrome de Rett, il va y avoir un certain nombre de symptômes autistiques qui vont se rajouter aux déficits et aux difficultés présentées par l'enfant. Alors, qui arrive avec un degré variable dans ces maladies-là. Et à contrario, dans les syndromes autistiques, on retrouve aujourd'hui des anomalies génétiques dans de l'ordre de 10 à 30% des cas, mais qui n'expliquent pas à eux seuls l'ensemble du tableau clinique.
Messieurs et dames, bien bonsoir. Voici Couleur Tropicale.
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente.
Couleur tropicale.
Tu montes en monte, tu descends en descends, tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Une Afrique démembrée, lacérée, déchirée.
Toi-même tu...
Couleur tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Hervé Mandina. Bonne arrivée la famille. Notez que demain en première manche, juste avant la séquence de la génération consciente, ce sera un spécial nouveauté. Voilà. En ce jour aussi, il y aura du gros son, toi-même tu sais. Les musiques d'Africa et de ses diasporas se rencontrent ici sur RFI. Voici, hey, la famille, Meryl pour Benny. Écoute ta radio, écoute ça.
Parabaisse comme moi à niveau, c'est messieurs pour éviter les coups bas à logique. Moi demain qui sont au café, en qui répondent et puis en y'a qui avait émoji. Faiblesse procédure et c'est humaine, ça impossible par ressenti sentiment. Attendu qu'on rejette un petit humain, les erreurs du passé sont mes sentinelles. Si on rigonnait tout en moi, ça bizarre pas senti dans moi, toute bague est brisée. Mais sur ma grande, avant de partir le matin, je mets mes plus beaux habits. Moi je tombe au jardin, moi, middle finger, et c'est pisse. Pas même pour pas moins vitamine, c'est quelque chose pour jouer pour mener la vie saine. En lampade, en poche prince, c'est toutefois en t'effet fausse route. En bambi, grand joker, en pas sorti, si ni en doute. Ça fait la vie arrête, mais ça t'épée, puis ça ouvre tout, mais à t'es pas oublié en baguette capitale. En béni, en béni, en béni. En béni, en béni, en béni, en béni, je m'en dis pas qu'à périr en les salles. En vrai, si yo t'es ça va qui point, yo peut parler, yo peut parler. Spéculation, c'est beau père, tout cas pour pli, yo peut oublier, yo qui est calé. La vérité est dans la bouche des membres plus aux parents qui connaissent pas le répit. Moi, j'ai un assiette, poche à rêver, tata, dala, ma tâche, j'ai un artiste. En lampade, en poche, mais c'est toutefois en t'effet fausse route. En bambi, grand joker, en passant ici, ni en doute. Ça veut la vie arrête, mais ça t'épuise, puis ça qui ça ouvre tout, mais à terre, pas
Good ça, l'africanité en terre martiniquaise, l'antillanité musicale. Elle s'appelle Meryl, elle est martiniquaise. Si vous ne la connaissez pas, sachez que c'est déjà une bosse. Elle a déjà collaboré avec Soprano, avec Chai, auteur et compositeur de talent. Meryl. Certains oseront peut-être la comparaison avec son compatriote Kalash, l'homme du bendo. Béni, le titre, c'était Meryl. Béni, le mot d'ailleurs qu'il convient, que l'on soit religieux ou pas, en ce 8 avril 2019, 25 ans après le déclenchement du génocide au Rwanda. La barbarie fut d'une rare intensité, d'une rare violence. Nous en reparlerons dans la génération consciente, la libre antenne de Couleur Tropicale. L'occasion, justement, de rappeler le rôle de la dite communauté internationale dans ce génocide, dans ce crime contre l'humanité. Aucun pays n'a été exemplaire. Je dis bien aucun pays, qu'il soit du continent africain ou d'Occident ou d'ailleurs. La politique faite des morts et les maîtres du monde, bah, il faut dire que parfois, il faut savoir s'en moquer, n'est-ce pas, Dieudonné ?
Le président, tu l'es unique. La famille, elle a besoin de toi. Si on t'a mis président, c'est pas pour pleurnicher.
Tu la veux, ta piscine à vagues dans ton ranch ? Va falloir se sortir les doigts du cul, W. Je peux pas t'aider. Et toujours... Tiens, Condoleezza, allez me chercher des cacahuètes, s'il vous plaît. Et vous les mangez pas, hein. W, c'est quoi le business? On est des fabricants d'armes, W. Le reste, c'est la mandoline, hein. S'il n'y a pas de guerre, on fait comment? On va pointer au chômage. On en fabrique, W. C'est ça, la business. Mettez-les ici, les pistaches, Condoleezza, merci. Hein? Tiens, asseyez-vous, vous allez écouter ce qu'on dit. Hein? Par terre, hein? Tu es gentille, Condoleezza. Hein? Toi, tu es bien brave. Tu es une gentille africaine. Hein? Ils sont bien lisses, ces cheveux, pour une noire, non? Tu veux faire plus blanche? Hein? Tu triches? C'est bien. Tu es une bonne américaine. Ou alors on va envoyer un noir au Conseil de sécurité. Ça fait plus gentil un noir. Faudra mettre un noir président un jour. On pourra continuer à enculer le monde tout en souplesse. Hein? On n'a qu'à envoyer l'autre, Powell. Monica, vous me faites monter Powell, s'il vous plaît. C'est un militaire, il va obéir. Mais je sais qu'on n'a pas trouvé. On va lui dire qu'on a trouvé des armes. Entrez ! Ah, voilà, Claudine, ça va ? Colline, j'ai dit comment? Ça va, capitaine? Général, tu dois en avoir des médailles, toi, hein? Tu en veux d'autres? Je peux t'en donner, hein? Tu l'as, celle avec la tête de Mickey? C'est maman qui doit être fière de toi, hein, Colline? Elle est où, maman? Elle est en Afrique, elle est où? En Louisiane? Oui, c'est l'Afrique. Bon, Colline, tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et... Calme-toi. Dis donc, bro, tu veux des médailles, Colline, ou t'en veux pas? Garde à vous. Il est con, il est merveilleux. Alors, tu vas acheter une petite fiole en pharmacie, et tu vas mettre du jus de pomme dedans. Et tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et devant le monde entier, tu vas dire, c'est l'arme de destruction massive. On l'a trouvée dans la poche de Saddam. Tu fais pas tomber par terre. Parce que si tu fais tomber, ils vont dire, dis donc, il est pas massif, ça, des choses. Hein? Allez, vas-y, et quand tu reviens, je te donne la médaille. Hein? Il a compris ce que j'ai dit ou pas?
Exceptionnel, Dieudonné, dans ce sketch, donc George Bush jouant, utilisant, manipulant Condoleezza Rice et le gros menteur de Colin Powell. D'ailleurs, regardez, Colin Powell, il s'est retiré de la vie politique, mais définitivement, je pense qu'il avait honte, en réalité, de ce qu'il a fait. On rit, là, en ce moment, là, nous rions de ce sketch de Dieudonné.
Mais en réalité, tout cela a causé tellement de morts, la destruction de l'Irak, mais surtout des morts civiles qui sont morts pour rien, juste pour que des gens continuent à contrôler une partie de la planète. Voilà. Et en ce 8 avril, évidemment, là encore, pour des histoires de pouvoir, des femmes et des hommes ont été massacrés. On va en parler tout à l'heure dans la Génération Consciente, la libre antenne de Couleur Tropicale. Je voudrais juste revenir sur la petite blague sur Condoleezza Rice, quand même. Ouh, t'as les cheveux bien lisses pour une noire. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, comment les uns et les autres l'attaquent. Et il y a eu un facho, parce que moi j'appelle ça comme ça, qui l'a attaqué sur les réseaux sociaux. Quelqu'un apparemment de connu, hein, je vais taire son nom par charité. Et ce gars lui dit, oui, regardez ses cheveux, elle devrait quand même se présenter un petit peu mieux quand on est porte-parole du gouvernement. Eh hey, mec, c'est juste parce que t'as pas l'habitude de voir certaines femmes afro avec leurs vrais cheveux. Mais ce sont ses cheveux et c'est sa dignité de femme et de femme afro.
Celui qui dit que couleur sur l'hôpital, c'est pas chuc là. Il n'a qu'à bien écouter ta voix avant de parler.
À gauche, à droite, débordement.
Bonjour, c'est Ntoro Chamou. Je suis très heureux de vous présenter mon single Shengelangu, extrait de mon nouvel album Sikamila, qui sort le 26 avril. Un album dans lequel je souhaitais mettre en valeur la culture de mon île à travers les rythmes traditionnels de Mayotte, en les mélangeant avec mes influences blues, folk et rock. Je vous donne rendez-vous le 3 mai pour mon concert au New Morning à Paris où je serai accompagné de mes musiciens réunis à 20h. On vous ramène les épices et la chaleur de l'océan Indien. Ça va grouver.
Venu haza kweli za mazoni na wasei Kawasaki ya wasuya Wafundi walashea Tasiriga u haja hazila mapea na wasei Ravanwe Shaka yangia Anai maore pia Mana wasika Isi kionyo mosha Ewa sehei Dala ochinia Nekaka wasinia Besi asana wanyisa imaore Ewa si
Le Mahorais Ntoro Chamou, spéciale recommandation de Ntoro Chamou, artiste magnifique. Il était au téléphone, nous reparlerons de lui puisqu'il sera en concert à Paris et l'occasion de le recevoir et d'en dire un petit peu plus sur cette scène parisienne. Ntoro Chamou pour Shangay Langou, magnifique chanson. Sur l'album, notre préférence va quand même au titre C'est la vie, spéciale recommandation. Dans la Génération Consciente, la libre antenne de Couleur Tropicale, dans quelques minutes, j'espère que vous allez aborder le génocide du Rwanda qui, le 7 avril 1994, faisait de l'homme une machine à tuer. Peut-être évoquerez-vous les enfants victimes de prêtres pédophiles en Afrique. Un auditeur leader et victime avait lancé le débat. Ou alors peut-être aussi de la situation de la chaîne d'info, la chaîne de télévision Africa 24, dont va nous parler Richard Joffo.
Oh la cool, la cool, la tropicale. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute d'RFI.
Bienvenue dans cette nouvelle édition, à la une de l'actualité.
La story de Richard Geoffaut.
J'en ai déjà parlé, le paysage audiovisuel africain voit naître et mourir à un rythme soutenu des chaînes de télévision. Qu'il s'agisse de l'Afrique noire ou des pays du Maghreb, nous voyons fleurir des chaînes que je qualifierais de narcissiques, unipersonnelles ou cheval de Troie. Tel homme d'affaires d'un pays du Maghreb qui crée une chaîne uniquement pour avoir sa tribune. Omniprésent dans des émissions qu'il présente ou dans lesquelles il s'invite lui-même, il ajoute quelques émissions à Libye et s'installe dans des locaux somptueux en région parisienne à grand renfort d'emprunts amicaux qu'il remboursera peut-être. Tel aussi un animateur de radio et télé qui crée sa chaîne dans un concept un peu fourre-tout et n'écoutant personne, semble vouloir la garder pour lui-même en ignorant le public, qui d'ailleurs ignore également la chaîne. Alors on se demande ce qu'avait dans la tête Constant Némalet avec Africa 24 qui va certainement déposer le bilan. La maison mère, Afrimédia, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de Nanterre, faute de repreneur. Il faut dire que le dossier n'est pas alléchant. Lorsqu'on demande à l'administrateur judiciaire quels sont les actifs reprenables, il y a un peu de matériel, une liste d'annonceurs, prioritairement les états actionnaires qui injectent de l'argent avec des contrats dont on ignore comment ils sont commissionnés, et le droit de payer un loyer exorbitant de locaux mégalomaniaques. Constant Némalet avait aussi créé Télésud, repris ensuite par la famille Bongo, dont la destinée est vacillante. Aujourd'hui, Africa 24 pourrait bien disparaître du paysage audiovisuel. Un vrai gâchis, mais parfaitement prévisible. Il faut aimer la télévision pour créer une chaîne de télévision. Ce n'est pas fait pour se payer de belles voitures, briller en société sous perfusion de l'État camerounais, porteur de 10% d'épargne, ou de la Guinée équatoriale à 16%, et qui comble les dettes abyssales ou les impayés de cette danseuse médiatique jusqu'au jour où, les élections passées, on se fatigue. Vous qui voulez créer votre média, pensez un peu au public avant de penser à la promotion de vos images, vos 4x4 de luxe ou vos somptueux voyages. La télévision est faite pour ceux qui la regardent, pas pour ceux qui la font. Mais ça, pour certains, c'est une autre story.
Richard Geoffaut.
On parlera probablement d'Africa 24 avec Constant Némalet qui nous en dira un petit peu plus sur la situation parce que c'est beaucoup plus complexe, mais c'est bien que Richard Geoffaut ait fait une généralité. Constant Némalet n'est pas celui qui roule dans les 4x4 et tout cela, mais c'est vrai que pour beaucoup, l'économie d'une chaîne de télévision, de radio sur le continent africain, eh ben c'est pas gagné, c'est pas si facile que ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc on reparlera de tout ça, mais il est important que l'Afrique ait ses propres médias, que l'Afrique ait la possibilité de parler, de regarder le monde, d'avoir un regard sur le monde et un regard également sur elle-même. Alors il y a des médias qui sont essentiels, importants et qu'il faut parfois sauver. On espère vraiment qu'Africa 24 sera sauvé. Si vous voulez poursuivre le débat, envoyez dès maintenant par message WhatsApp votre prénom et le sujet de votre choix, celui-ci ou un autre d'ailleurs. Et on vous rappelle immédiatement, voici notre numéro WhatsApp 00336 37 42 62 24. 00336 37 42 62 24. Oula, coula, coula,
champion d'Africa 24.
Couleur tropicale avec Claudicia qui écoute pas ce que tu aimes. Ramatoula est DJ, le menteur, celui qui ment et qu'on le paye.
Coula tropicale, oh yeah.
La famille de Couleur Tropicale à l'écoute de la radio mondiale. Allez, vous le savez, vous avez rendez-vous sur la piste de la plus grande discothèque d'Afrique. DJ Jules, le phénoménal, est au platine en direct de Cotonou.
Le phénoménal Jules DJ.
Avez-vous préparé ce qu'il faut pour la danse?
Oui!
Pourtant, vous savez que ce soir, c'est la discothèque.
C'est la plus grande discothèque d'Afrique. C'est le mix.
Ta façon de me poser, ta manière de sourire me fait rêver.
Tropical.
Je ne peux pas te marier. Que tu n'es pas la moitié de ma brutalité. Je pense que tu es foiré. Ils m'ont dit que tu es villageoise. Que tu n'as pas d'argent à partager. C'est une encore école que tu n'es même pas éduquée. Just because c'est foiré. Encore je t'aime, mais encore.
Elle aime trop ça. La douillouté, j'adore faire ça. Mais sans te mentir, elle est à mon goût. Girl, je te dis, for you, I'm ready. Son corps pâle, son look charme. Yeah, j'en suis fan. Son corps pâle, baby. Son look charme. Yeah, j'en suis fan.
C'est chalet, chalet, ouais.
J'aurais que d'une chose payer ma poche. Quand t'as pas de sous, t'es dans les autres. Je pense à ma vie. Chaque jour, je grandis. Annie de mon ami. M'en fait quand les fonds babami. M'en fait quand les fonds Iami. Changer la vie de ma famille.
Phénoménal, les têtes aux platines de la plus grande discothèque d'Afrique. Il vous a fait danser sur les hits de Fatih pour Penzi, Queen Fumi avec Coco, Freeze avec Coco et à l'instant Nicanor pour John Ford. Bon anniversaire à toutes les personnes nées un 8 avril. Oui, toi, je ne t'oublie pas. Oui, toi aussi. Oui, toi aussi. Bon anniversaire. C'est aussi le jour de naissance d'un grand monsieur, d'un immense artiste qui, comme personne, a su exprimer la souffrance de l'homme confronté à l'amour qui s'en va.
Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés.
Écoutez bien.
Tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer.
Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Jacques Brel est né le 8 avril 1929 à Schaerbeek, en Belgique. Jacques Brel est décédé le 9 octobre 1978. On vous a fait écouter, on vous fait encore écouter, ne me quitte pas. Et moi, ça me donne envie de pleurer maintenant. Cool, cool, cool.
La libre antenne.
Claudio, il y a le téléphone pour toi. Hein.
33 6 37 42 62 24.
Toujours jamais.
Génération consciente, la libre antenne de Couleur Tropicale. Dans quelques minutes, les auditeurs leaders. Et tout de suite, le coup de fil du soir ou du jour, tout dépend à quel moment vous avez choisi de nous écouter. C'est l'histoire d'un groupe de femmes et d'hommes pour qui culture rime avec éducation. Comment exprimer les aspirations de la jeunesse tout en évoquant la citoyenneté? Au départ, il y avait un premier label, TNK Productions. Puis, c'est la naissance de Bien de Bien Productions, B2B. Ilias Koudougou, bonne arrivée, Ilias.
Merci, Claudicia, merci.
Que veut dire ce nom de label Bien de Bien Productions, B2B?
D'abord, on a failli. On s'est d'abord dit qu'il nous faut une thématique à travers laquelle on pourrait être reconnu comme il se doit et comme il se faut, tout en faisant de la culture un bien. Et c'est là qu'on s'est dit que bon, il est bien d'être deux fois bien, donc on a choisi Bien de Bien.
Bravo. Avant de parler de Tenko Show du 8 avril, donc le grand spectacle, faisons un peu d'histoire.
Ouais.
Quand est née la structure et que fait-elle, la structure donc Bien de Bien?
La structure Bien de Bien Production est née en réalité depuis 2010. Et c'est depuis 2010 qu'on a commencé à organiser les activités du côté de Tenko Togo, qui est une ville du Burkina Faso.
Ouais.
Et au fil du temps, dans l'objectif de viser la Lune, on a maintenant commencé à organiser quelques activités du côté de Ouaga. Et c'est dans le programme de nos activités qu'on a le SCAT, qui est le spectacle culturel et artistique de Saint-Codogo, qui aura lieu les 20 et 21 avril du côté de Saint-Codogo.
J'adore l'esprit, Ilias. C'est ça l'esprit de la génération consciente. On vise la Lune, on n'a peur de rien, on ne s'arrête plus juste à la dénonciation. On a tous dénoncé, on dénonce tous, et depuis longtemps, on connaît la situation aujourd'hui. Maintenant, l'idée, c'est de bâtir et de bâtir ensemble. C'est ça l'esprit de Bien de Bien?
C'est ça l'esprit de Bien de Bien. Finir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Et c'est comme vous le dites.
Bon.
Il faut qu'on soit ensemble. Il faut faire de ce monde un maillon fort. Il faut qu'on soit unis comme les doigts de la main d'un des plus.
Exactement. Les champs d'action du label, donc de la structure de production, sont des activités donc culturelles, très clairement, sportives également, touristiques, environnementales. Et tout cela, ça se passe au Burkina. Comment est-ce que toi et les autres, vous, je pense à Jamila, je pense à toute l'équipe, vous rendez ça concret?
Allô?
Oui, comment est-ce que tu rends, avec les autres, comment est-ce que vous tous vous rendez ça concret lorsqu'on parle d'environnement, par exemple?
Voilà, c'est pas des actions qu'on organise sur place. On organise parfois des journées de salubrité, on organise parfois des conférences sur des thèmes bien de précis. Et même lorsqu'on jette un regard dans le rétroviseur, vous verrez qu'on a eu à organiser des activités qui ont porté sur des thématiques telles que jeunesse et sauvegarde de l'environnement. Et même le stade qui aura lieu à Saint-Codogo porte sur le thème jeunesse et citoyenneté. C'est donc dire que c'est le 20 avril, dans la salle de conférence du conseil régional de la région du Centre-Est, qu'on aura la conférence sur le thème jeunesse et citoyenneté, sur le coup de 8 heures.
Alors, c'est le 21 avril, tu l'as dit à deux reprises, donc j'y vais, je continue, à Saint-Codogo. C'est à la salle Djamou, c'est ça,
ouais.
La salle Djamou du 8 mars,
ouais.
C'est ça?
Oui, le 21 avril à la salle Djamou du 8 mars. On aura l'affiche, si vous me permettez déjà,
ouais.
Une compétition de danse inter-établissement. Il y aura des prestations en slam et en rap. Et on aura aussi des prestations d'artistes.
Bah oui, il y a Hamzi.
Musical.
Bah il y a Hamzi, il y a Melokai, il y a Fleur.
Il y a Melokai et il y a Fleur. Avec des artistes également de la ville, tels que le groupe Vortex, tels que Z-Speed et LMT qui forment le collectif Young Winner. Il y aura plein d'artistes, ça serait un spectacle à couper le souffle.
Comment est-ce que celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils soient à Ouaga, qu'ils soient à Bobo, quelle que soit la ville du pays, et puis à Saint-Codogo surtout, comment peuvent-ils rentrer en contact avec Bien de Bien Production pour en savoir un petit peu plus et être présents?
Ils peuvent juste appeler le 00226 73 93 71 93.
Il faut répéter.
00226 73 93 71 93.
Faut répéter encore une troisième fois.
J'ai également notre numéro WhatsApp 00226 73 93 7193.
Bon, on peut mettre ça sur la page Facebook de Couleur Tropicale?
Clairement, avec plaisir, Claudia,
bon.
Ça nous rendra au cœur. Et merci pour le soutien que tu nous apportes depuis le début. Le meilleur est que le meilleur est à venir.
C'est clair. Et puis nous, on est vraiment respectueux de tout le travail que tu fais, que vous faites tous, tous ceux qui sont dans la structure, donc, parce que vous êtes là, vous agissez, vous travaillez. Et c'est vous qui construisez le continent, c'est vous qui construisez l'Afrique, les gars.
Merci pour les honneurs. Bon. Merci.
Le 21 avril, au Faso, donc, à Tenkodogo, pour le Tenko Show. Tenko Show.
Tenko Show Thaï.
21 avril.
Tenko
et
Thaï.
Voilà.
21 avril.
Bon. Ilias Koudougou. Ilias Koudougou, comme la ville de Koudougou.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mon frère.
Avec plaisir.